Je laisse la parole à Yann Raison du Clesiou, maître de conférence à l'Université de Bordeaux, spécialiste en sciences politiques et notamment sur le catholicisme, et qui nous parle des catholiques observants et la construction du vote catholique légitime durant les primaires de la droite et du centre.
Voilà. Merci, Madame la Présidente. Alors, je vais vous parler de la construction d'une nouvelle forme de rôle d'autorité, une nouvelle forme de rôle d'autorité à la fois politique et religieux. C'est le rôle de courtier électoral, le rôle de médiateur-négociateur entre un électorat et des candidats politiques. Alors, la Manif pour tous a mobilisé dans la plupart des univers de sensibilité catholique, hein, aussi bien des pratiquants que des non-pratiquants. La Manif pour tous a mobilisé parmi les électeurs de droite, mais pas seulement, également parmi ceux de gauche. En revanche, l'état-major de la mobilisation était socialement et religieusement plus homogène et peut-être situé dans la nébuleuse que je qualifie de catholique observant, c'est-à-dire un catholicisme reposant sur des réseaux de famille où la foi catholique est vécue de manière intensive et extensive. L'obligation de l'assistance à la messe hebdomadaire est un élément clé de l'autodéfinition de ce qu'est l'orthodoxie et l'orthopraxie catholique, hein, donnée par ces catholiques. Ils ont par ailleurs une insistance sur la question du salut extramondain, une insistance sur la question de morale sexuelle qui les distingue relativement des autres univers catholiques. Les catholiques observants constituent un groupe intégré au sens sociologique, c'est-à-dire un groupe qui reconnaît dans un certain nombre de personnalités, des porte-paroles. C'est un groupe également qui dispose de moyens de diffusion de l'information relativement autonomes, enfin même totalement autonomes, par exemple des autorités diocésaines ou ecclésiales, par la presse. C'est également un groupe dont les membres partagent un sentiment d'appartenance, une conscience partagée, ce qui confère à ce groupe une très forte capacité de mobilisation. Par ailleurs, ce groupe se pense comme une minorité élitiste, comme une minorité porteuse de valeurs universelles, et ils aspirent à la fois, ils pensent leur action et leur combat avec toujours dans la perspective d'un double horizon, à la fois restaurer l'Église catholique, rendre l'Église catholique vraiment catholique, et restaurer la société française, puisqu'ils s'estiment porteurs de la véritable identité française, c'est-à-dire la fidélité, finalement, aux promesses du baptême de Clovis. Alors, les succès de mobilisation de la Manif pour tous ont donné à ces catholiques une grande confiance dans leur capacité d'action, ce qui a contribué à les mobiliser bien au-delà de la seule question du mariage. Dans un contexte de recomposition de la droite, lié à l'échec de Nicolas Sarkozy à la présidentielle de 2012, les observants et les responsables de la Manif pour tous ont ambitionné de monnayer le soutien électoral de leurs militants contre une mise à l'agenda de leurs objectifs politiques, abrogation de la loi Taubira, politique familiale, etc. La Manif pour tous, Sens commun, le Parti chrétien démocrate, l'hebdomadaire Famille chrétienne, la revue Liberté politique ou le site Le Salon Beige constituent de fait ce que j'appelle une coalition agissante par leur construction convergente de la transaction électorale souhaitable entre les partis et l'électorat dont ils s'estiment porte-parole. Car en effet, ils se dotent d'une autorité de régulateur du champ partisan au nom des familles, de la majorité pro-famille, pour reprendre le vocable qu'ils utilisent, ou bien du vote catholique. Et cette autorité de régulateur du champ partisan qu'ils construisent et dont ils se dotent, ils le font, cette autorité, ils la construisent, bien sûr, d'une manière totalement autonome, totalement indépendante des autorités ecclésiales. Et ça est, à ce titre, cette forme de régulation, de construction d'une autorité politique et religieuse est très intéressante. Alors, dans cette communication, je vais vous parler de la construction de ce rôle de courtier, tout spécialement la manière dont la Manif pour tous et Sens commun vont construire ce rôle de courtier en employant des répertoires d'action spécifiques, et puis j'en viendrai à l'appui que cette opération de courtage va recevoir au sein de l'univers observant, dans la presse dont j'ai cité les titres tout à l'heure, et j'en arriverai aux controverses qui vont exister au sein de cet univers observant pour définir quel est le vote catholique légitime au moment de la primaire de la droite et du centre. Alors, cette opération de conversion des manifestants en électorat, cette entreprise finalement de constitution d'une autorité de courtage électoral, elle démarre, je dirais, dès le mois d'avril 2013, dans un entretien que donne Frigide Barjot à Corse ce matin. Et Frigide Barjot annonce que la Manif pour tous présentera probablement des listes lors des élections municipales qui suivent. De fait, la Manif pour tous ne présentera pas de liste, mais elle va déployer un répertoire d'actions relativement standardisé pour se mettre en position de courtage de l'électorat qu'elle entend représenter. Et ce courtage, la Manif pour tous va l'imposer, va s'imposer en tant que courtier lors des élections municipales, lors des élections consulaires, départementales, régionales, jusqu'à la primaire de la droite et du centre et à l'élection présidentielle actuelle. Alors, pour aller vite, quel est le répertoire d'action déployé pour crédibiliser cette posture de courtage? Premier répertoire d'action, il y a la création de technologies de mise à l'épreuve des candidats ou de mise à l'examen des candidats. C'est-à-dire que, par exemple, pour les municipales de 2014, la Manif pour tous va définir une charte des municipales, et les candidats qui veulent recevoir le soutien de la Manif pour tous, ils doivent signer cette charte. C'est-à-dire que par eux-mêmes, ils doivent se plier à ce processus, ils doivent faire aveu de leur positionnement en raison de ce dispositif créé par la Manif pour tous. On retrouve le même genre de dispositif, vous voyez, de passage à l'aveu au moment des européennes, où il y a de nouveau des critères du bon candidat pro-famille qui sont publiés, et les candidats doivent ensuite se positionner d'eux-mêmes sur ces critères, et ils sont évalués sur ces critères. On retrouve la même chose donc aux différentes élections, jusqu'aux primaires de la droite et du centre. Au mois de septembre 2016, la Manif pour tous publie 40 propositions pour une politique de la famille, et c'est sur ces 40 propositions que les candidats doivent se positionner et qu'ils seront évalués. Donc une procédure de mise sous examen qui prend des formes différentes. Par exemple, au régional de 2015, ce sont des entretiens lors de débats qui sont faits directement avec les candidats. Donc il y a là une forme de mise en scène de l'injonction à se positionner vis-à-vis de la Manif pour tous. Le deuxième élément du répertoire d'action déployé, c'est le recours au nombre, technique bien connue du lobbying. Le recours au nombre dans la Manif pour tous, je dirais, a deux modalités principales. Il y a un recours au nombre en amont et en aval de chaque échéance électorale. Alors en amont, tout d'abord par la mobilisation et la commande de sondages qui crédibilisent l'opération de courtage, parce qu'ils font apparaître systématiquement que la question familiale est une question fondamentale pour l'électorat visé lors des élections. Donc recours au sondage ou autre forme de recours au nombre, recours à la manifestation. Vous avez une manifestation le 16 octobre 2016 qui précède les primaires de la droite et du centre pour donner à voir la puissance du nombre de la Manif pour tous et donc par conséquent peser sur les primaires. Recours du nombre ensuite en aval de chaque échéance électorale, puisque bien sûr chaque élection est interprétée comme une transaction aboutie. Donc si au municipal il y a un certain nombre d'élus qui ont été élus dès le premier tour, c'est parce qu'ils ont signé la charte. Si aux élections régionales Laurent Wauquiez par exemple etc. sont élus, c'est en raison de leur positionnement sur la politique familiale. Donc il y a toujours une forme de lecture rétrospective des élections. Si le succès, si certains candidats ont eu du succès, c'est bien sûr parce qu'ils se sont positionnés sur l'agenda politique de la Manif pour tous. Par conséquent, leur succès est un accomplissement de la transaction proposée par les courtiers. Alors, déclinaison spécifique de cette entreprise de courtage électoral au sein de l'UMP, le mouvement, le parti politique Sens commun. Sens commun qui est créé en décembre 2013 avec pour objectif d'utiliser le succès des manifestations pour imposer à l'UMP un agenda sociétal et politique nouveau. Je vais vite. Quelles sont les technologies déployées par Sens Commun? Alors tout d'abord, premier répertoire d'action, je dirais, ou première modalité d'action, il y a une mise en tension des allégeances. Pour fonder un courant, il faut bénéficier, au sein d'un parti, il faut bénéficier d'une double légitimité. Tout d'abord, être reconnu du parti, c'est-à-dire apparaître comme un militant loyal, mais en même temps réussir à faire voir une petite différence ou une différence qui est capitale et qui permet de monnayer un changement de la ligne politique ou une représentativité dans des instances politiques du parti. Et donc, Sens Commun va jouer à la fois de cette loyauté. Hein, les fondateurs de Sens Commun sont d'anciens adhérents de l'UMP et ils le mettent bien en valeur, comme Madeleine de Bazin-Gessé ou Sébastien Pilar. Ce sont d'anciens adhérents qui étaient découragés et qui se réinvestissent. Et derrière eux, beaucoup d'autres militants se réinvestissent, recours au nombre également. Et s'ils se réinvestissent, c'est pour faire entendre leur différence. Donc leur différence doit être entendue, sinon cet apport militant sera perdu. Deuxième répertoire ou deuxième technologie d'action, se rendre indispensable. Se rendre indispensable à la fois par un activisme programmatique, hein, puisque les militants de Sens Commun vont élaborer un manifeste, la droite que nous voulons. Ils vont élaborer également, avec d'autres mouvements, des assises. Ils vont proposer un certain nombre de positions sur la politique familiale, donc offre programmatique, qui est bien sûr toujours présentée et défendue avec l'idée du courtage électoral, hein, derrière. Si vous n'intégrez pas à l'agenda politique des Républicains ces positions, eh bien vous perdrez l'électorat que nous représentons. Alors, je vais très vite, pour ne pas subir la férule de la présidente. Donc, cette opération de courtage électoral, elle a reçu un appui, elle a reçu des appuis au sein de ce que Michel Auferlet appelle les champs adventistes de la politique, c'est-à-dire parmi de multiples acteurs qui, sans faire partie du champ partisan, trouvent des rétributions à décrire et à qualifier ce qui s'y passe. Alors tout d'abord, au sein de l'univers observant, Famille chrétienne, le Salon Beige, la revue Liberté politique vont reprendre systématiquement les critères du courtage électoral promus par la Manif pour tous et vont les faire fonctionner, vont mettre en scène la puissance électorale que pourraient représenter les manifestants, voilà, une famille chrétienne, hein, la carte à jouer des catholiques, et puis des numéros où sont évalués, comparés, à partir des positions de la Manif pour tous, les différents candidats. La semaine dernière, vous pouviez lire, par exemple, dans Famille chrétienne, un entretien avec Jean-Luc Mélenchon, où il est évalué par des experts. Qui sont ces experts? Des porte-parole bien connus de la Manif pour tous, comme Tuc Dualderville. Donc on voit bien à quel point on a une construction d'une expertise, d'un courtage électoral qui est soutenu par toute une presse catholique observante, qui reçoit également des soutiens en dehors de la presse observante, parmi les journalistes du Figaro Vox, qui ont des solidarités de position avec la Manif pour tous, mais également il y a une crédibilisation de l'opération de courtage qui est faite par des experts qui vont mettre en récit l'existence d'un électorat puissant qui ne trouve pas de vote satisfaisant et qu'il faut donc satisfaire. Typique de ce type de positionnement, Patrick Buisson qui, dans un entretien au Monde en juin 2013, déclare « La France des invisibles est devenue visible. À travers la Manif pour tous, cette France a accédé à une conscience civique et politique. Nul ne peut mesurer l'impact qu'aura cette révolution culturelle. Bon, » etc., etc. Donc, en gros, mise au crédit de l'existence d'un électorat qu'il est donc mise au crédit de l'opération de courtage de la Manif pour tous qui se présente porte-parole de cet électorat. On retrouve également des appuis de la part d'un universitaire, Guillaume Bernard, maître de conférence en sciences politiques à l'ISS, qui a un positionnement qui est assez lié au Salon Beige, à Liberté politique, qui constate un mouvement d'extrogyre, c'est-à-dire un mouvement de tous les échiquiers politiques vers la droite. Par conséquent, selon lui, les partis doivent se positionner sur ces nouveaux enjeux électoraux, sinon ils vont finir par disparaître. Cette forme de mise en récit, d'analyse, elle est aussi soutenue, par exemple, par quelqu'un comme Gaël Brustier, qui, lui aussi, dans la presse, va mettre en récit l'existence de ce nouvel électorat, d'une recomposition à la fois conservatrice et populiste, ce qui donne du crédit, un crédit extérieur, un crédit savant à l'opération de courtage. Alors, oui, quelle sévérité. J'en arrive aux primaires de la droite et du centre. Dans le cadre des primaires de la droite et du centre, toute cette coalition observante va finalement va se diviser pour définir Ce qu'il faudrait déjà dire, c'est que la construction d'un marché électoral de la famille ou des catholiques a rencontré immédiatement un succès, dès les élections municipales, avec l'intégration de candidats venant de la Manif pour tous. Ça a rencontré un succès au régional, aux européennes, avec la liste Force Vie de Christine Boutin, qui a tenté de capitaliser, de se présenter comme l'incarnation de ce mouvement, etc., etc. Cette opération de courtage, elle a bien su... bien sûr, eu un succès dans le cadre de la primaire de la droite et du centre. Pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup parlé du réveil catholique, on oublie de dire qu'aussi, il y a quelque chose de très neuf, c'est la primaire de la droite et du centre qui aboutit à un effet de focalisation sur l'électorat catholique, qui est un segment surreprésenté de l'électorat des Républicains. Et bien sûr, il y a eu une forme de catholicisation de la plupart des candidats, c'est-à-dire que tous, ils ont émis des signes d'allégeance envers les courtiers de ce vote catholiques, tous. Alain Juppé, dès le 15 août, présent à la messe à Lourdes. Kosciusko-Morizet, son prénom m'échappe. Nat. Bon, bien sûr, elle aussi se positionne dans famille chrétienne, en disant « oui, je suis catholique, mais... » Elle ajoute un « mais » pour définir sa positionnement. Donc vous voyez, à partir du moment où ils sont évalués, y compris par la presse catholique qui va passer des entretiens avec eux, ça les soumet à l'impératif de passer à l'aveu. Et donc ça crée un effet de catholicisation du politique, puisque tous vont se positionner vis-à-vis de la presse catholique, y compris Jean-Luc Mélenchon la semaine dernière, qui nous parle, ce qui arrive assez rarement, mais c'est un effet de champ et un effet de cette mise à l'examen par la presse catholique, de son enfance d'enfant de cœur. Bon. Donc, tous les candidats se positionnent. On a beaucoup insisté sur les faits d'allégeance de François Fillon. On peut trouver des signes d'allégeance chez la plupart des candidats. Mais sauf que la reconnaissance du bon candidat a divisé la coalition observante. Puisque vous avez la branche qui est très favorable au projet de droite hors les murs, bon, je n'ai pas le temps de revenir là-dessus, qui cherche à créer finalement un parti politique spécifiquement observant qui capitaliserait ce vote puissant en se mettant à la charnière entre les Républicains et le Front National. Donc eux, ils sont pour Jean-Frédéric Poisson, parce qu'ils sont dans une conception spécifique de la stratégie électorale. Il faut favoriser les catholiques de conviction qui agissent en tant que catholiques. Et donc, même si Jean-Frédéric Poisson ne va pas gagner, lui, il affiche vraiment l'identité catholique. Et donc, si on ne le soutient pas, cela découragera à terme tous les parlementaires qui voudraient assumer leur identité catholique en politique. Autre ligne, plus une ligne de vote utile, celle défendue par Sens commun, il faut défendre François Fillon, parce que sinon, c'est la marginalisation. Et finalement, toute l'opération de courtage et donc de mise sous pression du champ politique au nom d'un électorat, elle aura échoué. Il faut que cette opération de courtage, elle puisse se poursuivre. Il faut créer un rapport de force et donc il faut qu'il y ait quelque chose à négocier. Donc, il faut négocier quelque chose avec des candidats qui sont en mesure de gagner. Position de Sens commun qui sera ardemment dénoncée par tous les candidats et conduits, Hervé Mariton, Guénaud... etc., qui sera dénoncé par le Salon Beige, parce que François Fillon, c'est vraiment le catholique bourgeois hypocrite. Comment peut-on s'appuyer sur lui ? Quelle erreur stratégique ? Donc, très forte division parmi la coalition observante. Mais bien sûr, à partir du moment où les résultats sont connus, il y a une convergence stratégique de tous ces acteurs, du Salon Beige à Liberté Politique, à Famille Chrétienne, pour dire « mais c'est bien sûr, si François Fillon a eu un tel succès, c'est parce que l'opération de courtage a réussi. C'est parce qu'il a réussi à capter le vote catholique. Donc vous voyez, cette interprétation, cette reconvergence stratégique, elle permet de construire une pression sur François Fillon. De lui dire, si vous avez gagné, c'est grâce à nous, donc tenez la ligne, sinon on vous lâche et vous perdrez. Donc voilà, il y a toute cette construction-là. Pour conclure, je dirais que ce qui est très intéressant, c'est que c'est toute cette construction d'un courtage électoral au nom d'un vote famille ou d'un vote catholique, les mentions changent selon les moments, elle retrouvera un soutien paradoxal de la presse de gauche. De la presse de gauche qui trouve également un intérêt finalement à valider la mise en récit produite par une certaine droite catholique du succès de François Fillon. Pourquoi ? Parce que la suridentification de François Fillon à une France, moisie, talibanisation catholique, comme le dit Laurent Geoffrin dans Libération, cette mise en récit du retour d'une France conservatrice traditionnelle, elle est bien sûr très mobilisatrice à gauche. Et c'est donc paradoxalement que des instrumentalisations et des formes de construction de la transaction électorale provenant d'une droite catholique et de la gauche vont s'appuyer l'une l'autre et vont ensuite recevoir leur consécration de la bulle médiatique qui s'engage après les primaires, où le Nouvel Obs, l'Express, tout le monde suit pour parler du réveil de la France catholique. Merci de votre attention.